Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 29 septembre 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Soudan, un groupe djihadiste peu connu a revendiqué l'assassinat de 6 membres des forces armées. Le groupe djihadiste a su n'avoir aucun lien avec l'État islamique. Enfants, soldats, Human Rights Watch et la sonnette d'alarme au Mozambique. L'ONG dénonce l'enlèvement d'adolescents convertis ensuite en combattants. En Tunisie, l'université Najla Boudaine, nommée première ministre, elle a été chargée par le président Kais Saied de former un nouveau gouvernement. Yémen, au moins 100 morts dans des combats autour de Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord de ce pays en guerre. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Un groupe djihadiste peu connu a revendiqué ce mercredi l'assassinat de 6 membres des forces armées soudanaises lors d'une perquisition à Khartoum, acte initialement attribué par le renseignement à une cellule de l'organisation État islamique. Les précisions de John Lindon.
Des combattants du mouvement ont réussi à tuer avec succès 6 infidèles des forces armées, parmi lesquels 3 officiers et 2 soldats, a déclaré le mouvement pour le prêche et le combat dans un communiqué publié sur Facebook, sans préciser le rang de la 6e personne tuée. Mardi, le renseignement soudanais a annoncé la mort de 2 officiers et 3 sous-officiers lors d'échanges de tirs avec des terroristes pendant une perquisition des services de contre-terrorisme dans une maison du quartier de Jabra à Khartoum. 11 terroristes de différents pays étrangers ont été arrêtés et 4 autres, également étrangers, se sont enfuis d'après les autorités. Le meurtre des membres des forces armées, qualifiés de héros, a dans un premier temps été attribué à une cellule liée à l'État islamique par le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Le mouvement pour le prêche et le combat, jusque-là peu connu, a également revendiqué mercredi la tentative d'assassinat de M. Hamdok en mars 2020 et assuré n'avoir aucun lien avec le groupe État islamique.
Des centaines d'enfants dans le nord-est du Mozambique ont été enlevés par des djihadistes, puis entraînés dans des camps pour devenir des combattants et rejoindre leur rang. C'est l'ONG Human Rights Watch qui l'a dénoncé aujourd'hui. Les détails avec Jacques Aristide.
Des témoins ont rapporté à l'ONG l'enlèvement de centaines de garçons, certains âgés seulement de 12 ans, ensuite conduits dans des camps d'entraînement. Des groupes armés djihadistes font régner la terreur depuis 4 ans environ dans la province du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, riche en gaz naturel, mais pauvre et à majorité musulmane. Nous avons rejoint d'autres hommes et garçons nombreux et on nous a appris comment utiliser des armes et des couteaux pour nous battre, raconte un jeune homme qui a pu s'enfuir. Il affirme avoir été enlevé par les djihadistes l'année dernière, Mbo, à environ 150 km de Pemba, la capitale du Cabo Delgado. Le conflit dans la région a tué 3300 personnes, dont une majorité de civils. D'après l'ONG ACLED, plus de 800 000 habitants ont été contraints à quitter leur foyer. D'après le chef de l'État mozambicain, Philippe Niusi, le conflit contre les groupes djihadistes, marqué par quelques succès des forces conjointes mozambicaines et rwandaises, se trouve en phase de consolidation.
RDC, augmentation de 50% des violations des droits humains au mois d'août, selon l'ONU. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté au mois d'août dans le pays 739 violations et atteintes contre 492 le mois précédent, ayant causé la mort d'au moins 293 civils, dont 63 femmes et 24 enfants, selon un document présenté lors d'un point de presse de la mission des Nations Unies en RDC. Ces crimes seraient imputables aux groupes rebelles, mais aussi à l'armée, ont indiqué les Nations Unies mercredi à Kinshasa. Environ 94% de ces exactions ont été relevées dans les régions affectées par les conflits armés, en particulier l'Ituri et le Nord Kivu, les deux provinces placées depuis début mai sous état de siège, mesure exceptionnelle censée mettre fin aux exactions de groupes armés actifs depuis plus de 25 ans en RDC. La France a averti mercredi le Mali qu'il n'est pas dans son intérêt de faire recours aux mercenaires de la société privée russe Wagner. Si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera. Il perdra le soutien de la communauté internationale qui est pourtant très engagée dans ce pays. Il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté et loin de diversifier ses partenariats, s'enfermera dans un tête-à-tête avec une société de mercenaires, a lancé la ministre française des Armées, Florence Parly, au Sénat de son pays. La justice ivoirienne a ouvert une enquête après des accusations de viol portées par une jeune femme contre le ministre de la Réconciliation, Kwadio Konan Bertin. Dans un document audio diffusé sur Internet lundi, une artiste ivoiro-camerounaise qui affirme avoir été une collaboratrice de M. Kwadio Konan Bertin l'a accusé de l'avoir violée en avril dernier à Divo, à 200 km à l'ouest d'Abidjan, où elle dit avoir été emmenée de force. Interrogée mardi soir sur le sujet à la télévision nationale, la RTI, le ministre ivoirien a assuré n'avoir rien à se reprocher et a également porté plainte en diffamation contre la jeune femme selon le parquet. C'est une première dans l'histoire de la Tunisie, une femme, Najla Boudaine, dirigera le prochain gouvernement. Cette université inconnue du grand public a été nommée par le président Kais Saied près de 2 mois après s'être octroyé les pleins pouvoirs. Abdourahmane Dia.
Née en 1958 et scientifique de formation, Madame Boudaine est originaire de la ville de Kairouan, dans le centre. Ingénieure géologue, Najla Boudaine Romdane était responsable de la mise en œuvre des projets de la Banque mondiale au ministère de l'Éducation, mais elle a peu d'expérience en politique. La nomination d'une femme au poste de chef du gouvernement est une chose positive, une reconnaissance de l'importance du rôle des femmes en Tunisie et leur capacité à réussir dans tous les domaines, a déclaré à l'AFP un politologue. La Tunisie est considérée comme le pays du Maghreb à l'avant-garde pour l'émancipation des femmes. Dans une série de mesures exceptionnelles publiées le 22 septembre, le président Saïd a formalisé ce que certains considèrent comme un coup de force le 25 juillet lorsqu'il s'était arrogé les pleins pouvoirs après avoir limogé le premier ministre, gelé le parlement et aussi repris en main le pouvoir judiciaire. Désormais, sur la base de ces mesures, le chef de l'État tunisien est le réel détenteur du pouvoir exécutif et présidera lui-même le Conseil des ministres.
La justice européenne a infligé mercredi un revers au Maroc et à l'Union européenne en annulant 2 accords de partenariat commerciaux concernant le territoire disputé du Sahara occidental à la demande des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Dans une déclaration commune rendue publique à Bruxelles, juste après l'annonce du tribunal de Luxembourg, l'Union européenne et le Maroc se sont engagés à poursuivre leur partenariat stratégique. Le Polisario a pour sa part salué une grande victoire. Le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a plaidé aujourd'hui avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour la tenue des élections prévues en décembre en Libye, pays ravagé par des luttes de pouvoir selon la présidence égyptienne. Messieurs Sullivan et Sissi ont, outre l'organisation des élections en Libye, évoqué le retrait des troupes étrangères et des mercenaires et l'unification des forces armées de ce pays, rapporte le porte-parole de M. Sissi, Bassam Radi, dans un communiqué. Les élections libyennes sont actuellement menacées car le président du Parlement, Aguila Saleh, a ratifié une loi électorale controversée favorisant le général Haftar, tandis que le Parlement siégeant à Tobrouk, dans l'Est, a voté une motion de censure contre le gouvernement. Des enquêteurs sud-africains demandent l'inculpation d'un ancien haut responsable et des sanctions contre l'ex-ministre de la Santé, Zweli Mkhize, dans un rapport accablant publié mercredi sur la corruption au ministère de la Santé avec l'argent destiné à lutter contre le Covid-19.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, au moins 100 combattants, dont 68 rebelles houthis et 32 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués ces dernières 48 heures dans des affrontements autour de la ville de Maraïb, dernier bastion loyaliste dans le nord du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les autorités yéménites affirment que la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite a mené plusieurs frappes aériennes pour appuyer les forces loyalistes. Les rebelles houthis ont confirmé que 59 raids aériens ont frappé Maraïb au cours des dernières 48 heures. D'après le gouvernement, des centaines de combattants du tribu local ont rejoint les rangs des forces gouvernementales pour repousser l'avancée des houthis. Les rebelles proches de l'Iran tentent depuis février d'arracher Maraïb. La prise de la ville leur donnerait le pouvoir sur tout le nord du Yémen. Ces dernières semaines, les rebelles houthis ont intensifié leur campagne. Selon les observateurs, ils se rapprochent progressivement de Maraïb, chef-lieu de cette région riche en pétrole. La guerre au Yémen a éclaté en 2014 avec la prise de la capitale Sanaa par les rebelles. Depuis, le conflit a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU, avec des millions de déplacés et une population au bord de la famine.
Le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid va se rendre jeudi à Bahreïn, première visite officielle d'un ministre israélien dans ce pays qui a normalisé ses relations avec Israël en 2020. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Claire Morin-Gigou.
En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a dévoilé le projet Sublime Côte d'Ivoire lors de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Le pays veut devenir la 5e destination touristique africaine et atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, ce qui, selon M. Achi, va permettre la création de 750 000 emplois. La République démocratique du Congo a pris une participation additionnelle de 2,5 millions d'euros dans Shelter Afrique, société panafricaine de développement de logements. Selon Financial Afrique, la RDC rejoint un groupe de plusieurs pays qui ont accéléré leur souscription de capitaux dans ce fonds panafricain, notamment le Cameroun à plus de 3,5 millions de dollars et le Mali à plus de 2 millions de dollars. Qui, lui, figure dans le top 5 des premiers actionnaires derrière le Kenya, le Nigeria et la BAD. La Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal se sont engagés ce mercredi à coopérer pour une gestion durable de leurs eaux souterraines, insistant sur leur volonté d'en faire un fondement de la stabilité régionale. Ils ont convenu à Genève d'établir un cadre juridique et institutionnel de coopération transfrontière pour la gestion durable du BASM ou bassin aquifère sénégalo-mauritanien, une réserve d'eau souterraine dont dépendent 80% de leurs habitants.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Suite des matchs de la deuxième journée de la Ligue des Champions ce soir en Europe, le tenant du titre Chelsea se déplace chez la Juventus. Après la claque inaugurale reçue au Camp Nou 3-0, le Barça est attendu au tournant sur la pelouse du Benfica. Le Bayern Munich reçoit le Dynamo Kiev, duel européen inédit au menu à Bergame entre l'Atalanta et les Young Boys de Berne. Manchester United doit réagir à Old Trafford face à Villarreal. Salzbourg reçoit Lille. Le Séville FC se déplace à Wolfsburg. Hier, le Paris Saint-Germain, avec le premier but de Lionel Messi, a battu Manchester City 2-0 avec un énorme Idrissa Gana Gueye, auteur du premier but des Parisiens. Il s'agit du quatrième but du Sénégalais cette saison. Liverpool n'a pas eu à forcer son talent pour humilier le FC Porto 5-1. Dont un but du Sénégalais Sadio Mané et deux de l'Égyptien Mohamed Salah. L'Atlético Madrid a battu l'AC Milan 2-1. Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 devant le Sporting Portugal. Le RB Leipzig a perdu 1-2 contre le Club Brugge. Le Real Madrid a subi la loi du modeste Sheriff Tiraspol, néophyte dans la compétition et vainqueur 2-1 sur la mythique pelouse du stade Santiago Bernabéu. Le Ballon d'Or sera remis le 29 novembre à Paris après une année sans lauréat. L'annonce a été faite par le magazine France Football, organisateur de cette distinction récompensant le meilleur joueur de l'année. La cérémonie sera présentée par l'ancien international ivoirien Didier Drogba. Ils seront décernés le Ballon d'Or masculin, féminin ainsi que le trophée Copa du meilleur jeune et le trophée Yassine du meilleur gardien. La liste des nommés pour ces différents prix sera dévoilée le 8 octobre. Lionel Messi, septuple lauréat et Megan Rapinoe en sont les détenteurs après leur sacre en 2019. En 2020, la distinction n'a pas été remise après une saison marquée par le Covid-19. Ici, aux États-Unis, la NBA tente de finaliser un accord avec le syndicat des joueurs le protocole sanitaire anti-Covid qu'elle souhaite imposer pour la prochaine saison régulière qui débute le mois prochain. D'après les médias locaux, il s'annonce contraignant pour les basketteurs non vaccinés. Ces joueurs, une cinquantaine, devront se soumettre à des tests quotidiens lors des jours d'entraînement, de voyage et de match. Ils devront rester chez eux les jours de match à domicile et à l'hôtel de l'équipe lors de ceux se jouant à l'extérieur, entre autres restrictions. En revanche, les joueurs vaccinés ne seront testés que s'ils présentent des symptômes ou s'ils sont cas contact. Le sujet de la non-vaccination est actuellement au cœur des débats en NBA. Longtemps sceptique, LeBron James, superstar des Lakers, a révélé s'être fait vacciner tout en refusant d'encourager les gens à l'être, car il estime que ce n'est pas son travail.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'OMS a été gravement mise en cause par une commission d'enquête indépendante sur les violences sexuelles commises par ses employés contre des dizaines de personnes. Ces abus sexuels ont été commis par des membres du personnel, aussi bien embauchés localement que par des membres internationaux des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola entre 2018 et 2020. Pour plus de détails, Claire Morin-Jibou a joint la coordinatrice d'Afiamama, Association de défense des droits des femmes, Annie Tengamodi.
Honnêtement, je ne suis pas surpris, mais par contre, je vais dire, autant que cela soit choquant, je suis plutôt satisfaite que les constats que nous faisons parfois dans notre intervention des relations inégalitaires et puis des messages implicites que certains comportements de certains acteurs humanitaires ou même de développement parfois affiche dans les zones d'intervention, soit mise à jour, mise vraiment à découvert par une commission indépendante, ce qui vraiment nous permet de dire que certaines de nos observations n'étaient pas que des superstitions ou des rumeurs. Il y avait effectivement quelques agents qui abusaient de leur position de pouvoir dans les zones d'intervention.
Est-ce que vous êtes satisfaite des excuses de l'OMS? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir évidemment mis en place une commission d'enquête complètement indépendante?
Oui, ça c'est la meilleure option qu'ils ont pris, d'avoir une commission indépendante, puisque comme le rapport lui-même atteste, il y a parfois négligence des personnels censés faire appliquer les politiques de tolérance zéro que tous les organismes possèdent. Si on n'avait pas pris une commission indépendante, peut-être que les rapports ne seraient pas les mêmes que celui que nous avons eu aujourd'hui. Cependant, par rapport aux excuses, je vais dire que oui, c'est bien que l'OMS reconnaisse et prenne même l'engagement de traduire certaines affaires à la justice congolaise. Ça, c'est bien, mais après, je pense que nous devons suivre parce qu'il faut vraiment des sanctions, pas seulement exemplaires, mais nous avons besoin des sanctions à la hauteur des crimes que les agents qui représentaient l'espoir pour la population ont commis dans cette zone rouge pendant une période très difficile. Et il est très important aussi que dans les staffs, je crois que ça a été acquis dans les rapports, on doit s'assurer qu'il y a un bon pourcentage des femmes parmi les agents qui sont déployés dans les zones humanitaires. Parce qu'on regarde que plus de 70% des agents dans le secteur humanitaire sont des hommes, il est très important de revoir un peu la question de l'égalité des genres, la question de la parité lorsqu'il faut engager et déployer les agents humanitaires sur le terrain.
Annie Tengamodi, coordinatrice de l'Association de défense des droits des femmes, Afiamama.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Une triste commémoration en Guinée, il s'agit du 12e anniversaire du massacre de plus de 150 manifestants et du viol de dizaines de femmes dans un stade à Conakry par les forces de sécurité guinéennes. C'était le 28 septembre 2009. 12 ans après, les victimes et familles des victimes attendent toujours que justice soit rendue. Elles réclament que le procès des individus suspectés d'être responsables de ces crimes soit ouvert dans les plus brefs délais, au moment où la Guinée entame un processus de transition après le coup d'État du 5 septembre dernier. Elle demande au colonel au pouvoir à Conakry d'envoyer un signal fort avec l'ouverture de ce procès. Pour en parler, Jacques Aristide s'est entretenu avec Asmaou Diallo, président de l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009.
Voilà, après 12 ans des massacres du 28 septembre, le procès tarde encore à venir. Mais nous comptons toujours à ce que les personnes inculpées soient entendues devant une juridiction, surtout la juridiction guinéenne. Ça a été notre prix de cœur depuis toujours, depuis qu'on a eu des inculpations. dont le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est en exil forcé, on peut le dire comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a toujours réclamé le retour en Guinée, mais le gouvernement de Chine n'a pas voulu qu'il rentre au pays, on ne sait pas pour quelle raison. Mais actuellement, tous ceux qui sont inculpés, ils sont en Guinée. Ceux que le président Condé avait pris toujours dans son gouvernement, ils sont là. Donc c'est pour cette raison que nous pensons qu'on peut faire revenir Dadis pour que tout le groupe soit présent devant la juridiction guinéenne.
Il y a encore plus d'incertitudes pour la justice après le coup d'État en Guinée. Quel appel lancez-vous aux nouvelles autorités de Conakry ?
En 2009, c'était une transition qui était là et tenue par les militaires. Il y a eu les massacres, pourtant on ne pouvait pas s'attendre à ça. Après ces massacres, ceux qui étaient venus revendiquer la candidature des militaires ont été massacrés sérieusement. Et finalement, c'est un régime civil qui est venu. Ce régime civil, nous, on avait pensé qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose pour les victimes du 28 septembre. Malheureusement, ça n'a pas été comme nous avons voulu, parce que le régime civil a surtout protégé des inculpés. Et on a été toujours banalisé, toujours roulé dans la farine, ce qui veut dire qu'ils ne voulaient pas que la justice se tienne. Alors à ce niveau, nous pensons que ça va arriver.
12 ans déjà donc, et l'attente continue pour les victimes et les familles des victimes. Garde-t-elle toujours espoir que justice sera bien rendue un jour? Et qu'attend-elle précisément de cette justice?
L'espoir est toujours là quand même. Lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, au départ on s'est dit que est-ce que ça va aller, oui ou non. Mais lorsque le président, le colonel Doumbouya a pris la parole, le premier jour après qu'ils ont mis Alpha Condé aux arrêts, la première déclaration qu'il a donnée, c'était en disant que la Guinée devait vraiment se venir vers la justice pour tout problème. Maintenant, c'est la justice qui doit trancher. Alors cela nous a donné vraiment un ouf de soulagement. Et aujourd'hui, toute la Guinée parle que du 28 septembre et tout le monde réclame que justice soit rendue.
Asmaou Diallo, présidente de l'ONG Avipa, elle était en ligne de Conakry en Guinée.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, la classe politique est éclaboussée par une affaire de trafic de visas et de passeports diplomatiques, incluant des députés de la majorité présidentielle et des membres fondateurs du célèbre mouvement citoyen Yanamar. Ces derniers ont d'ailleurs été assez rapidement mis aux arrêts suite à la diffusion d'une vidéo de leurs transactions. Contrairement aux parlementaires, malgré des révélations de Condé, le cerveau de leur bande et les preuves retrouvées chez ce dernier par la police. Une situation dénoncée par l'opinion publique qui estime qu'il y a une justice à deux vitesses. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Jour après jour, l'affaire de trafic de visas et de passeports diplomatiques continue d'alimenter la polémique au Sénégal. D'une part, les rappeurs Kilifa et Simon, membres fondateurs du mouvement citoyen Yanamar, ont été confondus par des vidéos où ils proposaient des titres de voyage contre des sommes d'argent comprises entre 2 millions et plus. De l'autre, deux parlementaires sont accusés de mariage fictif pour établir des passeports diplomatiques à leurs clients. Après l'arrestation des activistes, les Sénégalais s'attendaient naturellement à la levée de l'immunité parlementaire des deux députés. Mais la procédure tarde à être lancée. Une situation que déplorent les populations. Ce jeune homme qui a requis l'anonymat s'est dit dégoûté par l'attitude de certains de nos dirigeants.
Le mal est profond, surtout les représentants de la population, eux qui doivent montrer le bon exemple et plaider les causes de la population. Ils sont là-bas à entrer dans des magouilles de corruption, de passeport diplomatique. Et bon, c'est grave. Et je pense que c'est plus profond parce que pour avoir l'accès au passeport diplomatique, pour avoir d'autres alliés, que ce soit au niveau plus élevé de l'État aussi. Donc l'enquête doit aller jusqu'au bout et déterminer les responsables et les punir.
À l'occasion du Magal de Touba, Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime de Maître Abdoulaye Wade, a laissé entendre que de faux certificats de mariage étaient souvent établis par des députés faussaires pour obtenir le passeport diplomatique à leurs épouses fictives. Ce qui conforte ce jeune électricien qui suit l'affaire. Pour Pape Ngom, ce dossier est un test grandeur nature pour la justice sénégalaise, mais aussi un tournant pour changer certains comportements.
Le Sénégal est un pays de droit et nul n'est au-dessus de la loi. Membre de Yanamar, homme d'affaires, député ou ministre, toute personne citée dans cette histoire doit être punie. On incrimine souvent l'État, mais il ne peut gérer toutes les dérives dans l'administration hospitalière ou bien la mairie. Il faut reconnaître aussi que nous soudoyons les agents pour des documents. Certains documents ne doivent plus être en version papier.
Samir Diop va plus loin. Il appelle à une gestion rigoureuse pour trouver la tête pensante de ces deals.
Un passeport diplomatique, je sais à des niveaux 1 sur
5. Il y a anguille sous roche. Les députés et les membres de Yanamar ne peuvent confectionner des passeports diplomatiques seuls. Ils ont certainement des complices si vraiment l'enquête est suivie jusqu'au bout. Des têtes vont tomber et pas des moindres.
D'après les dernières nouvelles, la division des investigations criminelles de la police nationale poursuit son enquête, tout comme certaines représentations diplomatiques présentes au Sénégal. Ces dernières veulent elles aussi savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire qui risque de jeter le discrédit sur les institutions et l'image du Sénégal. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken défend le bilan politique de la politique étrangère du président Joe Biden. L'administration fait face à des pressions pour son traitement des migrants haïtiens à la frontière américaine, le retrait américain d'Afghanistan et un accord sur les sous-marins nucléaires avec l'Australie qui a provoqué la colère de la France. Les détails avec notre correspondante diplomatique, Cindy Sen, le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations unies que le monde est à un point d'inflexion. Il a promis de passer d'une ère de guerre implacable à une ère de diplomatie implacable avec les États-Unis, engagés aux côtés des institutions multilatérales comme l'ONU. Mais le récent départ précipité des États-Unis d'Afghanistan avec de nombreux Afghans délaissés alors qu'ils ont aidé les États-Unis n'est que l'un des multiples défis de politique étrangère auxquels la Maison-Blanche a été confrontée ces dernières semaines. Aux Nations Unies, le secrétaire d'État Anthony Blinken a été confronté à des questions difficiles sur les défis de la politique étrangère de Biden. Blinken a déclaré que toutes les personnes avec qui il a parlé à l'ONU ont apprécié la vision de la politique étrangère de Biden.
Les États-Unis déterminés à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays qui comprennent qu'aucun des grands problèmes et défis auxquels nous sommes confrontés, ceux dont nous avons parlé, du Covid au climat, en passant par l'impact perturbateur des technologies émergentes, aucun ne peut être résolu par chacun d'entre nous agissant seul.
Mais la plupart des experts conviennent que l'administration Biden a connu des revers en matière de politique étrangère, notamment la colère de la France. Brian Katulis travaille au Center for American Progress.
Certes, le centre de gravité de l'attention de cette nouvelle administration a été les problèmes intérieurs avec la pandémie et les vaccins et la situation économique. Une grande partie du temps personnel du président, je pense, sera consacré aux discussions avec le Congrès pour les convaincre de son plan d'infrastructure et du filet de sécurité sociale.
D'autres experts disent que Biden se concentre surtout sur la résolution des problèmes intérieurs, parfois au détriment de l'exécution de sa politique étrangère. Aaron David Miller est de la Fondation Carnegie pour la paix internationale.
D'abord, ça le distrait. Cela le stimule et je pense qu'il se concentre volontairement sur ce qu'il veut faire, à savoir devenir un président transformateur chez lui.
Le Congrès peut également être en partie à blâmer, a déclaré à la VOA Christopher Scabula de l'Atlantic Council.
Au département d'État et au sein du département de la Défense, je pense qu'il y a encore un peu de reprise en cours après la négligence des années 3. Et aussi, pour une autre raison quelconque, la confirmation des cadres supérieurs dans bon nombre de ces postes a été lente. Et maintenant, le Congrès est très lent à les confirmer.
Blinken, qui a grandi à Paris, s'est engagé à travailler dur pour établir les relations étroites entre les États-Unis et la France, affirmant que cela prendra un certain temps.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Dion à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Voix Afrique, les infos.